Félix Aymant, 1890. Petit traité des punitions et des récompenses. À l'usage des maîtres et des parents. Avec en préface une lettre de Monsieur Ernest Legouvet de l'Académie française. À Monsieur Félix Aymant, mon cher confrère et ami. Vous me demandez quelques lignes à mettre en tête de notre petit traité. Que voulez-vous que j'y ajoute? Il est complet. On y sent l'œuvre d'un homme qui a beaucoup étudié les enfants, beaucoup réfléchi sur les enfants, beaucoup pratiqué les enfants, et de plus, ce livre part de la main d'un pédagogue. Tout au plus puis-je donc noter ici quelques petits faits que m'a fournis mon expérience personnelle. J'ai élevé mes deux enfants et un peu mes trois petits-enfants. Jamais je ne leur ai donné une chiquenaude, et pourtant, j'enregistre ici comme un titre dont je suis très fier, le mot que m'a dit un jour ma fille, « Tu nous aurais fait rentrer dans un trou de souris. » Quelle était donc mon attitude vis-à-vis d'eux? Étais-je donc dur, sévère? Nullement. Toutes les occasions d'amusement, je les saisissais. Je les recherchais pour eux. J'étais le plus joueur de tous les pairs avec eux. Mais une fois que le devoir avait parlé, j'étais d'une fermeté inflexible. Selon moi, la fermeté paternelle a sa source dans la tendresse. Je ne connais rien qui aille si bien ensemble que la familiarité et l'autorité. Un axiome célèbre dit « qui aime bien châtie bien ». C'est monstrueux. Bien aimé, c'est bien élevé. Et bien élevé, c'est corriger, c'est réprimer, c'est contenir, c'est prévenir, c'est punir, ce n'est pas châtier. Le châtiment corporel a bien plus pour objet de satisfaire la colère de celui qui l'applique que de corriger le défaut de celui qui l'a subi. J'ai cependant vu une mère, la plus tendre des mères, faire couler le sang de son fils qu'elle adorait, et jamais je n'ai mieux compris ce qu'il y avait d'héroïque dans la tendresse que le jour où j'ai vu les lèvres de cette mère toutes rouges du sang de son enfant. Elle lui avait mordu le doigt sans hésiter. Pourquoi? Parce qu'il avait mordu lui-même, lâchement et cruellement, le doigt de son petit frère. La figure de cette mère et celle de cet enfant ne sortiront jamais de ma mémoire. Le bourreau avait la pâleur d'une martyre, son visage exprimait une douleur mille fois plus profonde que celle de son fils. Pour lui, il ne dit rien. Il la regarda, il comprit, et il se jeta à son cou. En revanche, j'ai connu une jeune fille, à qui son père, dans un moment de colère, avait donné un soufflet quand elle avait déjà 15 ans, et qui m'a dit, quand elle en avait 25, « Jamais je ne lui ai pardonné, et je ne lui pardonnerai jamais. » Enfin, troisième fait qui rentre directement dans votre théorie, l'amiral Jurien de la Gravière m'a dit que la discipline n'avait jamais été plus forte dans la marine que depuis l'abolition des châtiments corporels. Je m'arrête, mon cher confrère et ami, ayant voulu seulement mêler à votre solide et excellent ouvrage quelques faits aussi frappants qui s'y rapportent et surtout saisir l'occasion de témoigner tout haut de mes sentiments d'estime et de sympathie pour votre personne. Ernest Legouvet. Avant-propos. Personne n'ignore que l'opinion s'est émue, il y a quelque temps, de l'excès de travail imposé à nos écoliers de tout ordre, et par suite duquel ils se trouvaient, comme on dit, surmenés. Pour donner satisfaction à ce qu'il y avait de légitime dans les plaintes des parents et des hygiénistes, les programmes ont été remaniés, sinon réduits, et les règlements ont été adoucis, de manière à mettre les mœurs de l'école en harmonie avec celles de la société. Il nous a paru qu'il convenait, à cette occasion, de faire précéder les règlements actuels d'un résumé historique et d'une appréciation des châtiments et des récompenses scolaires chez les divers peuples aux diverses époques. C'est ce résumé que nous donnons sous le titre de « Petit traité des punitions et des récompenses » qui sera, nous l'espérons, de quelque utilité de la plupart des maîtres et des parents. Félix Aimant. Petit traité des punitions et des récompenses. Introduction. L'éducation de l'enfant, c'est-à-dire le développement harmonique de son âme et de son corps, se fait soit dans la famille, soit à l'école où les enfants se trouvent réunis pour recevoir l'enseignement et les soins en commun, soit simultanément à l'école et dans la famille. Quel que soit le mode adopté, le but auquel on tend est atteint par certains moyens dont il importe d'assurer l'efficacité. Par exemple, les exercices doivent être convenablement répartis. Un temps déterminé doit leur être consacré, de judicieux intervalles sont nécessaires pour les séparer. En un mot, il faut établir l'ordre dans le travail, puis veiller à l'exécution de ce travail. Toutes les prescriptions, ordres ou défenses, sont renfermées dans un code nommé règlement auquel se conforment maîtres, parents et élèves. C'est la loi commune, égale pour tous, protectrice de tous, et que tous ont un égal intérêt à respecter et à maintenir. L'autorité du règlement est d'autant mieux établie, sur des bases d'autant plus solides, qu'il a été inspiré par une préoccupation plus exclusive de la justice. S'il est juste, il assure la liberté et l'égalité. L'obéissance qu'on lui doit, loin d'être servile et imposée par la force, est au contraire une soumission volontaire, recherchée même comme une garantie de sécurité, comme une protection que tous invoquent à l'occasion pour se défendre contre les injustices dont ils se croient victimes. Si quelqu'un enfreint la loi, il doit être puni. Il a mal agi, et toute action mauvaise entraîne un blâme et un châtiment. De là, les peines édictées par la loi. Tandis que dans les lois sociales se trouvent inscrits des châtiments contre les coupables, il n'est nullement question de récompense pour les gens de bien. Le législateur a pensé, peut-être avec raison, que s'il est inévitable de punir le vice, il n'est pas absolument nécessaire de récompenser la vertu. La loi scolaire, elle, punit et récompense. C'est par la crainte et l'espérance qu'on gouverne les enfants tout aussi bien que les hommes. L'enfant est un être moral en puissance. La conscience est chez lui en germe. Dès lors, nous devons, dès le premier éveil de la conscience, nous préoccuper de développer chez lui le sens moral. Ne négligeons rien. N'oublions rien de ce qui peut nous faciliter la tâche. Tout est bien, dit Rousseau, sortant des mains de l'auteur des choses. Seulement, rien ne sort directement des mains de l'auteur des choses, car tout est bien changé depuis tant de siècles que les hommes occupent la terre. L'enfant n'apporte-t-il pas en naissant des prédispositions, des aptitudes, des goûts, qu'il doit à ses ancêtres comme il leur doit des linéaments de son visage? C'est un héritier de l'humanité. Tout n'est pas bien, mais tout n'est pas mal en lui, et la mission de l'éducateur consiste tout à la fois à contrarier les mauvaises tendances et à favoriser l'épanouissement des bonnes. Nous devons nous attacher à lui faire comprendre qu'il y a des choses permises et des choses défendues, qu'il doit par suite s'interdire ce qui est défendu et que l'obéissance à la fois règle, loin d'être pour lui un effet de la crainte, doit être l'expression d'un mouvement spontané de son âme. Nous contribuerons ensuite à développer et à fortifier chez lui le sens moral, à rendre sa conscience de plus en plus délicate, en évitant de lui laisser confondre le mérite et le démérite avec leurs conséquences, en le pénétrant de cette idée que ce n'est pas de la punition, mais de la faute qui doit être peinée, comme ce n'est pas de la récompense, mais de la bonne action seule dont il doit être satisfait.